Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hello les cops!
C'est Chloé
et Tania.
Et aujourd'hui, on va vous partager les 20 choses qu'on aurait aimé savoir avant nos 20 ans.
Bon, les cops, on est super contentes de vous retrouver pour ce nouveau podcast. C'est en fait une trend qu'on a vu passer pas mal sur les réseaux sociaux. Et la dernière fois, quand on tournait le podcast avec Amal, on a eu cette idée pour le prochain de vous faire celle-ci. Et du coup, on vous a dressé une petite liste chacune des 10 choses qu'on aurait bien aimé savoir avant nos 20 ans. Bon, en réalité, ça aurait pu même être avant nos 15 ans ou nos 12 ans ou peu importe. Mais voilà, il y a des choses qu'on a eues comme bilan sur notre vie, des vérités, je pense, qui peuvent marcher pour pratiquement tout le monde et qui nous auraient bien été utile si on les avait su avant. Donc, du coup, on va vous dresser la petite liste avec Chloé.
Ouais. Alors,
est-ce que tu veux commencer? Moi, j'ai bien batté. Donc maintenant, c'est ton tour.
Ok, d'accord. Alors moi, la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'amour n'est pas plus important que l'amitié. Il faut chérir les deux. Mmh. Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans nos épisodes, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre l'amour sur un piédestal. Mais moi, en fait, je me rends compte que mes amis, c'est un peu le ciment de tout. Et donc, du coup, je pense que c'est très important de ne pas forcément mettre en priorité l'un plus que l'autre. C'est vrai qu'on a tendance toujours à prioriser son ou sa partenaire. Mais franchement, comme on dit, tu peux te séparer de ton conjoint, mais par contre, tes amis, normalement, c'est pour la vie. Pas forcément, mais t'as capté l'idée, quoi.
En fait, c'est plus stable, on va dire. Surtout de nos jours où j'ai l'impression que les relations, elles sont un peu crazy. Le mieux, c'est quand même de garder un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que les amis, force est de constater que c'est quelque chose qui va pas trop avoir tendance à bouger, puisque normalement, si ton amitié elle est pas toxique, c'est une amitié qui est assez saine et stable, et tu sais que tu peux compter sur la personne en cas de pépin, même si tu la vois pas tous les jours, tu sais que normalement tu peux compter sur elle, et ce serait dommage de la perdre. T'as envie de dire quelque chose?
Non, j'allais dire, après, je pense pas avoir été en couple au point de ghoster mes amis, je pense que ça m'est jamais arrivé, mais c'est quand même quelque chose dont j'ai pris conscience, en mode qu'il fallait vraiment que je fasse attention, même en étant en couple, à avoir cet équilibre-là, et je pense que je l'ai encore aujourd'hui. Je vois tout le temps mes amis, et je vois MJM aussi en parallèle, tu vois, mais je suis pas là en mode à me mettre en autarcie avec MJM pour vivre mon histoire, non, j'aime bien aussi qu'il ait ses amis et que j'ai les miens, et ok, on passe des moments ensemble que à deux, on passe des moments aussi ensemble avec nos amis, mais aussi très important, je vois mes copines seules, tu vois.
Et je pense que ce qu'il y a de bien quand tu fais ça, c'est que tu t'assures une sérénité d'esprit que t'as pas si jamais tu mets tous tes œufs un peu dans le même panier avec ton mec, sachant que comme on l'a dit, les couples, il y en a, on en voit à 50, 60, 70 ans, les gens ils peuvent se séparer, rien n'est ancré dans la roche, et donc du coup c'est bien d'avoir cette sérénité là d'esprit en te disant que oui, t'es en couple, oui t'es investi dans ton couple, mais à côté si jamais t'as toujours tes amis et t'es toujours investi auprès d'eux, t'arrives pas comme une petite brindille au milieu d'un je sais pas quoi. Je vais pas trouver une métaphore.
Mais tu sais, c'est même genre, j'ai envie de pouvoir parler de mon mec avec mes copines. Genre, j'ai envie de pouvoir bitcher sur MJM, dire à quel point il me casse les pieds.
On se doute qu'il écoute ce petit podcast. Voilà.
Voilà, j'ai envie de pouvoir le critiquer, etc. Et donc, pour ça.
ou le complimenter quand même. Attention, tout n'est pas noir.
C'est ça. Je taquine un peu. Mais voilà, vous aurez compris l'idée. Donc, je pense que c'est important aussi de garder des temps pour passer des moments privilégiés avec nos amis, quoi. Tu sais, ça peut être un peu casse-pied, genre quand ta pote, elle ramène toujours son mec et tu peux plus voir ta pote seule.
Non, mais c'est sûr, c'est chiant.
Donc, voilà.
Non, trouver une balance. Moi, si je suis grave d'accord, c'est hyper important. Et moi, du coup, quelque chose qui pourrait se rejoindre, donc en deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que pour moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, être en couple, ça voulait vraiment dire avoir réussi sa vie. Genre pour moi, vraiment, j'avais l'impression que dans ma lignée de ma vie, vraiment la réussite principale, c'était être en couple, tu vois. Et en fait, maintenant que j'ai évolué, et franchement, moi, j'ai pas été énormément en couple. Si tu mets tout bout à bout, je vais être en couple environ un an dans ma vie, j'en ai 27, et je me rends compte du nombre de choses que j'ai accomplies. Et je dirais pas que je les ai accomplies parce que j'étais célibataire. Je pense que tu peux aussi très très bien évoluer dans ta vie, faire plein de choses quand t'es en couple. Mais le fait est que j'ai accompli énormément de choses, j'ai réalisé plein de rêves. Enfin, franchement, je suis hyper heureuse de la vie que j'ai actuellement, même si je suis pas en couple. Et en comparaison, je compare avec des personnes qui ont été en couple énormément de temps et qui, à côté de ça, sont pas forcément plus heureux, ni épanouis, ni quoi que ce soit. Donc je me dis qu'en fait, je dis pas qu'être en couple c'est une mauvaise chose ou quoi, mais je pense que c'est une bonne chose parmi plein de bonnes choses qui font que tu es heureux dans ta vie, tu vois. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, et d'ailleurs, est-ce que vous aussi, les cops, quand vous étiez plus jeune, vous aviez cette idée-là que être en couple était égal à réussir sa vie ou pas? Et est-ce que ça a évolué?
Mais tu sais, même moi, l'année dernière, je me disais, mais pourquoi je rencontre personne? Pourquoi je suis pas dans une relation? Mais d'un autre côté, j'étais tellement heureuse aussi célibataire, mais c'était toujours dans un coin de ma tête que, je sais pas, ma vie serait peut-être meilleure le jour où je serais en couple. Et en fait, quand t'es en couple, tu te dis, ma vie n'a pas radicalement changé. Genre, certes, je suis en couple, mais je suis toujours la même, j'ai toujours les mêmes potes, je fais toujours les mêmes trucs. Donc certes, tu peux avoir un petit truc en plus, mais clairement, ça change pas non plus radicalement ta vie. Alors oui, je suis très heureuse et c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais je veux dire, je trouve ça important quand même d'être heureux avant tout.
Seul.
Seul. Et tu vois, genre, il y a une personne qui m'a dit sur Insta l'autre jour, parce que je parlais de ça, elle me dit « Ouais, mais je trouve justement qu'il y a cette injonction de « on doit être heureux seul, mais si on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être en couple pour l'être, t'envoies quel signal aux gens qui n'y arrivent pas, tu vois ?»
Bah après, moi, je pense qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils ont évolué, ils ont grandi comme ça, et donc tu peux pas leur imposer « rester seul pour rester seul si ça te rend malheureux », tu vois. Mais peut-être, même quand t'es en couple, essayer de réfléchir à toi, qu'est-ce qui te fait évoluer en tant que personne seule.
Ouais, et qui tu es, qu'est-ce que t'aimes faire seul, enfin...
Tu peux le découvrir en étant en couple aussi, tu vois, mais ne pas s'oublier dans une relation ou se définir par le fait qu'on est en couple.
Ouais.
Tu vois, en fait, je pense qu'il y a des gens qui tombent dans ça un peu.
C'est ça, mais moi, c'est aussi plutôt pour la question de... Par exemple, tu vois, les personnes qui vont dire... Bah moi, il y a beaucoup de cops qui m'ont dit, bah moi, j'ai confiance en moi grâce à mon copain parce que, voilà, il m'a valorisée, il m'a dit que j'étais belle et avant, bah moi, je me trouvais... pas à mon goût, etc. Et c'est grâce vraiment à lui. Et moi, je dis, ok, c'est cool si t'as aidé, mais moi, ma philosophie, c'est plutôt de se dire qu'il faut quand même cultiver son jardin, il faut quand même travailler sa confiance en soi seul, parce qu'en fait, ça veut dire que le jour où le mec, il se casse, est-ce que t'as toujours confiance en toi? Est-ce que t'es toujours à l'aise avec ton reflet dans le miroir, tu vois?
Ouais, ouais. Ou le jour où le mec, il te fait une critique ou une remarque ou un truc, en fait, ça va pas te casser en deux, tu vois? Donc, moi, je suis d'accord qu'en fait, il faut prendre... Et encore une fois, même au-delà de ça, genre, c'est pas parce que ton mec, il va te trouver belle que tu vas vraiment être belle pour tout le monde. Et c'est pas parce que ton mec, il va te trouver moche que le mec, que tout le monde va te trouver moche. Genre, pour moi, c'est quand même un argument qui est un peu bancal parce que tu peux pas mettre ta confiance en toi dans les mains de quelqu'un. Après, quoi qu'il arrive, ça fait toujours du bien, un compliment, etc. Bien. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu tendancieux. Il faut toujours essayer, pour moi, bah, comme on disait, d'avoir de la balance.
Ouais.
C'est pour ça que ça se rejoint avec le conseil de tout à l'heure. C'est que vraiment, pour moi, la clé dans la vie du bonheur, c'est avoir une bonne balance parce que sinon, tu peux te retrouver dans la merde. Mais moi, je sais que pareil, quand j'étais en couple avec Roberto l'année dernière, et ben, genre, je sais que j'étais heureuse avec lui. Ça m'avait apaisée. Pour être honnête, ça m'avait apaisée parce qu'il y a forcément ces standards de la société et j'avais pas été en couple sur une longue durée avant ça, dans une relation vraiment sérieuse, etc. Du coup, t'as toujours un peu ce complexe de pourquoi pas moi, pourquoi les autres sont choisis pour des relations longues et pas moi, etc. Qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. Et en fait, c'est là où je me dis que, a posteriori, après avoir été en couple avec lui, en fait, je me dis, bah, c'était un peu irrationnel comme peur. Parce qu'au final, quand je l'ai été, j'étais pas plus heureuse. Ça n'a rien changé. Mais j'avais cette peur irrationnelle avant d'avoir été en couple, que j'ai plus d'ailleurs maintenant. Donc ça, pour ça, franchement, je le remercie. Parce qu'en fait, c'était un peu une croyance limitante où je me disais, bah, en fait, si j'ai jamais été en couple, c'est parce qu'en fait, je mérite pas d'être en couple, ou je suis pas assez bien et tout. Et en fait, le fait de l'avoir été, ça m'a apaisé, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, bah, quand j'étais en couple, bah, j'étais heureuse, certes, mais comme avant. Tu vois? Juste, j'avais ce poids-là en moins. Et là, je vais pas mentir, des fois, j'ai envie de me remettre en couple, etc. Mais du coup, j'ai moins ce truc de je suis pas légitime à être en couple, je suis pas légitime à être aimée et tout. Du coup, je suis moins stressée du cul.
Mais franchement, meuf, je partage tellement ta vision. Genre, mais moi, encore l'année dernière, je me disais, mais est-ce que je suis légitime?
Est-ce que quelqu'un peut m'aimer?
Et là, je suis grave apaisée aussi. Et après, voilà, je suis pas en couple pour être en couple, mais je suis hyper heureuse avec MJM. Mais c'est vrai que ça m'a quand même apaisée à ce niveau-là où tu peux avoir carrément des doutes, te remettre en question en mode, mais est-ce que je suis digne d'être aimée? Mais bien sûr que tu es digne d'être aimée.
Ouais, mais c'est fou parce que la société, en fait, elle nous met tellement la pression à être en couple, à être en couple, à être en couple, que genre, tu sais, il y a des gens, mais moi qui m'envoient des messages, je suis toujours célibataire, des fois je reçois des messages, je suis célibataire et j'ai 16 ans, est-ce que c'est normal? Je suis en mode, mais oui, en fait, c'est totalement normal. Il n'y a pas de normalité, tu peux avoir un mec à 12 ans comme tu peux avoir ton premier mec à 34 ans. C'est, en fait, ça dépend de ton parcours de vie, de la chance. Il y a des meufs, elles vont rencontrer 10 000 mecs avant de trouver le bon. Il y en a, vont rencontrer un mec et bam, ça va être le bon. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle, tu vois. Et c'est pas parce que t'es pas en couple que tu n'as pas de valeur. Mais je comprends, mais ça veut pas dire que je comprends pas ce sentiment-là. Mais pour vous expliquer qu'en réalité, une fois que t'as expérimenté le couple, tu te rends compte à quel point, en fait, c'était une pression sociale plus qu'un ressenti qui venait potentiellement de toi, de ton fond, tu vois. Ouais. Ah, une belle tirade encore de ta Tania. Alors, à toi, Chloé.
Alors, moi, j'avais quelque chose aussi par rapport aux relations. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Tu as le droit de mettre un terme à une relation qui te fait te sentir mal. Et c'est vrai que, bon, là, je dis plutôt dans le sens amical, mais ça marche aussi quand même pour la famille, parce qu'il y a un peu cette croyance qui te dit, bah, c'est ta famille, c'est pour la vie. C'est à la vie, à la mort, c'est ton sang. Mais je pense que si par exemple, je sais pas, t'as une relation hyper toxique avec ta sœur, vous vous entendez pas du tout, elle est horrible avec vous, enfin, pourquoi pas ne plus lui parler ? Enfin, j'ai envie de dire, ok, c'est ta sœur, oui, vous avez les liens du sang, mais si c'est vraiment impossible, si c'est une relation... Ouais.
C'est... En fait, pour moi, les liens du sang, ils ont une valeur qui est importante, parce qu'en fait, c'est des gens qui potentiellement te connaissent depuis que t'es tout petit, qui te lâcheront pas, etc. Mais les liens du sang, du coup, ils ont de l'importance dans ce cas-là. Mais si les gens, ils t'envoient pas ça, en fait, que les gens, même, ils te soutiennent même pas quand tu vas bien, qu'ils te soutiennent pas quand tu vas mal, qu'ils t'enfoncent quand tu vas bien, qu'ils te truquent, en fait, c'est-à-dire, c'est des gens sur qui tu peux pas compter fondamentalement. Pourquoi est-ce que, pour moi, on dit qu'il faut considérer la famille? Parce que, justement, on dit que c'est des gens sur qui tu peux compter.
Exactement.
Mais si c'est des gens sur qui tu peux pas compter, qui sont banco de fou, en fait, pourquoi tu devrais les considérer comme des valeurs sûres, en fait, elles sont pas.
Et au final... Et tu tes amis peuvent être ta famille.
Mais bien sûr, pour moi, clairement, moi j'ai vraiment de la famille à travers mes amis, où j'ai même des relations amicales beaucoup plus proches qu'avec ma famille. Sûr. Genre, moi, typiquement, même toi, Chloé, je te parle peut-être même plus qu'avec ma sœur. Alors, j'adore ma sœur, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le fait est que, qu'on se voit tout le temps, qu'on partage la même réalité, etc. Et donc, du coup, je te dis énormément de choses. Ou même avec mon daron, tu vois. Après, bon, comme je dis, c'est des gens sur qui, moi, dans mon cas, j'ai l'impression que je pourrais compter sur eux. Donc, forcément, je les chéris, parce que je sais que même ma mère, même si je la vois pas tous les jours, je sais que je peux compter sur elle et je la chérirai jusqu'au bout, tu vois. Mais parce que j'ai la chance d'avoir ces personnes-là qui sont saines autour de moi. Mais si, par exemple, ma sœur avait mis que des par exemple, quand on était petite, avec ma sœur, c'était pas donné. C'était pas sûr. J'ai la garder dans ma vie tout le temps, parce qu'elle était méchante avec moi quand j'étais petite. Mais avec le temps, notre relation, elle a changé, parce qu'on a évolué. Et maintenant, c'est plus pareil. Mais ouais, si ma sœur, elle avait été aussi méchante que quand j'étais petite.
Ça aurait été chaud.
Maintenant, je serais juste là. Déjà que là, on s'entend bien et on se calcule pas forcément, parce que les vies font que nos vies font qu'on se voit pas trop. Alors, t'imagines si elle était méchante? Je la verrais à Noël et basta, quoi.
Et du coup, tu vois, je le disais pour la famille, mais à la base, je voulais aussi surtout le dire pour les amis, parce que je trouve que plus on vieillit, et plus c'est difficile parfois de mettre un terme aux relations. Tu sais, genre quand t'es dans la cour d'école, t'es en mode t'es plus ma copine. Mais je trouve qu'à notre âge, ça va être compliqué de dire à une personne « je ne te veux plus dans ma vie ».
C'est marrant, je trouve l'inverse, moi. Je dirais après ce que j'en pense.
Mais... Après, je trouve que ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va s'éloigner naturellement, moins s'écrire, moins se voir, et voilà, tu vas sortir progressivement une personne de ta vie. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui restent avec des gens, qui restent amis avec eux, parce que un peu, ils se disent « j'ai pas trop le choix ». Si en fait t'as le choix, justement, on choisit ses amis. Donc si cette meuf elle est toxique pour toi,
Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que moi, dans ma réalité de quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était beaucoup plus galère. Parce que t'es dans un microcosme hyper petit. Tu sais, t'es au collège et tout.
Tu les vois à l'école, etc.
T'es dans ta classe et tout. Moi, je sais que j'étais dans des relations toxiques de fou au collège et tout. Et c'était pas faute de vouloir m'en éloigner. Mais en fait, tous les matins, de toute façon, tu vas te les retaper. Et tous les jours, tu vas faire les mêmes projets avec eux, etc. etc. Donc en fait. Je trouve que c'est vraiment super dur de se... Pour le coup, c'est le plus dur pour moi. Et après, quand tu grandis, au contraire, je trouve que tu as plus ton caractère, tu peux plus t'affirmer, tu sais plus ce qui est OK pour toi de ce qui l'est pas. Et après, ce qui est dur, c'est la croyance limitante de se dire... J'adore dire ce mot, ça fait très coach thérapeutique, je sais pas ce qui me prend. Mais en gros, genre le fait de dire je pourrais plus me refaire d'amis, passer un certain âge, passer un anime, en fait, c'est faux. Moi, j'ai l'impression que chaque année, non, peut-être pas chaque année, mais au moins un an sur deux, tous les deux ans, j'ai l'impression que je fais rentrer quelqu'un dans ma vie que j'adore et avec qui, enfin, en fait, ça me tue parce qu'on se fait des passes. Parce que moi, du coup, je vais dire mon petit conseil, parce qu'avant, je vais le dévoiler avant de le citer. Mais en gros, alors attendez, j'avais mis quoi? Voilà, les gens peuvent rester dans ta vie, donc pour toujours, mais il y a aussi des personnes qui vont t'accompagner sur une durée et c'est OK comme ça. En fait, il y a des personnes, je trouve, qui vont parfois rentrer dans ta vie. Et en fait, ils vont t'accompagner pendant une durée de ta vie qui va correspondre à une certaine phase. Par exemple, même il y a des gens, tu vois, il y a des gens, ils vont sortir énormément. À un moment, ils ont besoin de sortir, d'être tout le temps dehors ou d'être en soirée tout le temps, etc. Et en fait, ça va répondre à un besoin à l'instant T. Peut-être qu'ils fuient quelque chose ou peu importe, mais peut-être qu'ils vont se trouver un binôme à ce moment-là qui va correspondre à cet état d'esprit de cette période-là. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là, tu dois la tâcher après, mais il s'avère que peut-être qu'elle va pas mâcher avec un autre mode de vie que tu vas vouloir avoir plus tard. Et c'est pas grave. Genre, il n'y a pas à en vouloir aux gens de pas vouloir accepter un changement et inversement. Genre, les gens, s'ils peuvent te faire du bien sur une phase donnée et après, ils ne correspondent plus, il ne faut pas leur en vouloir de plus être là. Il faut plutôt être heureux d'avoir pu partager ces moments-là avec eux. Et après, moi, je trouve le mieux, c'est de continuer de les voir avec parcimonie. Tu vois, moi, je trouve que c'est malsain de cut complètement une amitié comme ça, ou même une relation, même si elle est toxique et tout. Moi, j'ai eu des amitiés un peu toxiques. Je les ai pas forcément cut complètement, tu vois. Mais j'ai pris mes distances, comme tu disais, et je continue de les voir de temps en temps parce que malgré tout, enfin moi, en tout cas dans mon cas, les gens avec qui j'ai été amie, même si c'était des amitiés toxiques, bah il y avait quand même des choses que j'adorais chez eux. Sinon, je serais pas un minimum intéressée à eux au point d'arriver à une relation toxique. Du coup, bah quand je les vois avec du recul, je passe des très très bons moments. Je sais que bah voilà.
Et est-ce que tu penses que ces personnes savent qu'elles ont été toxiques pour toi ?
Pas forcément. En fait, j'ai l'impression, après, voilà, ça dépend des personnes, tu vois. Je pense qu'il y en a qui ont conscience, même on en a parlé et tout, a posteriori et tout. Donc oui, il y en a, oui, mais il y en a, par exemple, où j'en ai pas forcément parlé. C'était plus un ressenti de mon côté ou alors des coups de malice que j'ai
appris.
C'est dommage.
C'est dommage que t'en aies pas parlé directement avec la personne.
En fait, je pense que si j'en parle, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même assez graves, pour que si j'en parle, limite, on se dise, bah, t'es bizarre de fou d'être resté ami avec moi. Genre, c'est-à-dire, toi-même, t'étais faux cul. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait des coups, je les suis a posteriori. Bon, comme c'était a posteriori, du coup, je suis en mode, bah écoute, c'est fait, je retiens. Et donc, du coup, je ferai moins confiance à l'avenir. Mais j'ai pas forcément envie
de. Et tu te sentais pas d'aller dire à la meuf, mais pourquoi tu m'as fait ça ?
Bah, tu sais, si c'est des trucs que t'as appris, par exemple, moi, il y a eu un truc que j'ai appris, un coup qu'on m'a fait, un an en retard. Et du coup, bah, entre-temps, je suis copine avec la personne, tu vois. Mais en fait, bah, pour vous mettre dans le contexte, j'étais très amie avec une personne. Après, le fait est que la vie nous a un petit peu éloignés, mais on est resté copines de loin. Et donc, du coup, cette relation qui était toxique à la base, parce qu'on était tout le temps en cul et chemise, a fait que, bon, ça s'est apaisé avec le temps, comme on se voyait moins, il y a eu moins de toxicité, etc. Du coup, a posteriori, j'apprends qu'il y a eu ce coup-là par quelqu'un d'autre qui date d'il y a genre un an. Du coup, je me dis, à quoi bon remettre ça sur le tapis alors que la relation toxique l'est plus, vu qu'on s'est éloigné, tu vois. Donc, j'ai pas forcément envie de faire ça parce qu'en fait, je sais que ce serait bizarre même. Moi-même, j'ai l'impression que je passerais pour une faux cul de pas avoir réagi sur le coup.
Okay.
Et même j'ai fait la paix avec ça. Juste je suis en mode, voilà, je sais que maintenant je pourrais plus être proche de toi.
Quoi t'en tenir.
Voilà, je pourrais plus être proche comme ça, mais maintenant ça n'empêche que je passe des bons moments avec cette personne.
Mm.
Et c'est, voilà, chaque cas est particulier. Genre, ouais. Moi, c'est parce que moi j'ai accepté comme ça, quoi.
Et du coup, ça va grave avec la leçon que j'ai tirée aussi. C'est éloigne-toi des personnes qui ne font que parler sur les autres. Et je trouve que ça se vérifie tout le temps en fait. Si t'es avec une pote qui fait que critiquer les autres, qui fait que parler. Enfin, si son sujet favori, c'est gossip, mais pas des gossips en mode mignon, tu t'as envie de savoir un petit peu les derniers potins, genre sympa. Genre, non, une personne qui va vraiment critiquer tout ce qu'une meuf elle fait, qui va vouloir la rabaisser, etc., se moquer, bah, je trouve que c'est vraiment des personnes de qui il faut s'éloigner au max. Parce qu'en fait, si les gens ils font ça avec les autres, ils vont le faire avec toi.
Ouais,
et franchement, moi, j'ai connu une ou deux meufs comme ça. Et franchement, c'est dès que je les voyais, elles voulaient bitcher sur tout le monde, quoi.
Et en fait, le problème aussi, je trouve, de ces relations-là, c'est que tu vas te retrouver à te mettre dans ce cercle vicieux-là de le faire aussi. Sauf qu'après, du coup, tu vas culpabiliser et tu vas te foutre dans des merdes genre adjacentes parce que les gens vont finir par le savoir par A plus B. Sauf qu'en fait, toi, de base, t'es pas comme ça. Donc, t'aurais pas eu tendance à t'aurais pensé dans ta tête, mais t'aurais pas forcément extériorisé. Ce qui fait qu'après, de toi, ça fait limite une faux cul. Parce que non, en fait, c'est des cercles vicieux de fou.
Alors même que... ça t'incite à critiquer les autres alors que là, de base t'es pas comme ça.
Ouais. Non mais c'est comme Twitter. Twitter pour moi pareil, c'est la même chose, c'est le réseau le plus toxique. C'est que tout le monde critique, du coup tu finis par t'habituer à la critique et à te dire bah limite c'est stylé parce que les gens ripostent et repartagent les critiques et donc tout le monde va commencer à critiquer et c'est horrible.
C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Fuyez.
Donc ouais, clairement si une personne critique trop et encore plus parce que j'ai envie de vous dire quand on est petit, on est un peu méchant limite malheureusement.
Et surtout à l'âge adulte. C'est grave de le faire à l'âge adulte.
En fait, quand on est petit, je dirais que c'est mauvais signe. Donc voilà, faites attention. Mais aussi qu'à l'âge adulte, si ça vous fait le coup, oh là 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 là, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est encore à un stade vraiment pas développé et c'est une catastrophe, quoi.
Et tu vois, parfois, en plus, tu peux être amené à critiquer les gens justement pour te mettre dans le moule, pour plaire un peu à tes potes, etc. Et du coup, ça m'amène à une autre leçon de vie que j'ai apprise, qui est « il n'est pas nécessaire que tout le monde t'aime ». Et je pense que c'est encore difficile, même aujourd'hui, à l'intégrer. Tu vois, quand il y a des haters qui vont te reprocher des choses, moi, je suis en mode, mais pourquoi tu m'aimes pas ? Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et en fait, c'est OK de pas plaire à tout le monde. Enfin, je pense qu'on peut pas, être amis avec tout le monde, que tout le monde nous kiffe, nous admire, qu'on inspire tout le monde. Non, on est tous différents. Mmh. Et même ça, je pense que c'est encore un trait avec lequel j'ai un peu de mal, où ça m'est déjà arrivé que des gens me disent, je sais pas pourquoi, elle, Chloé, je l'aime pas. Et j'ai jamais trop compris pourquoi, mais c'est comme ça en fait.
En fait, c'est normal que ça fasse chier, mais ça veut pas dire que tu dois changer pour leur plaire.
Mm.
Genre, ça fait toujours chier. Enfin, on va pas se mentir, tout le monde aimerait bien que tout le monde les aime, tout le monde aimerait bien que tout le monde les trouve beau, tout serait parfait, voilà. Mais en réalité, si tu plais à quelqu'un, par exemple, qui va aimer, même ne serait-ce que physiquement, parce que c'est le plus simple, mais les blondes aux yeux bleus, c'est obligé que tu vas pas plaire au mec qui préfère les petites brunes aux yeux marrons. Genre, c'est juste une fatalité, tu vois. Donc, pour moi, c'est pareil avec le caractère. Genre, il y a des gens qui vont avoir des opinions qui vont être complètement différentes des tiens, qui vont avoir des goûts différents. Et voilà, quoi, c'est OK. C'est pour ça que, bon, moi, je me dis déjà, c'est incroyable. Tu vois, par exemple, tu parlais des haters, mais c'est déjà incroyable qu'on ait réuni autant de personnes toutes les deux sur nos réseaux sociaux qui nous aiment bien. T'imagines, on a. Bon, après, peut-être on a. Allez, peut-être, je sais pas, on va peut-être avoir 2% de haters qui se cachent là-dedans. Mais je me dis, du coup, ça fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous aiment bien, wesh.
Ouais.
C'est trop bizarre, moi, en fait. C'est une dinguerie. Enfin, limite, on est les élus du Dieu. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il y a des gens qui nous aiment bien. Enfin, c'est improbable. Moi, je sais que c'est une fierté de fou, quoi.
Ouais, je sais pas pourquoi le cerveau, il a tendance à toujours se focaliser sur le négatif.
Ouais, je sais, c'est horrible. Mais moi, des fois, c'est ce que j'essaie de me redire. Je me dis, franchement, dans la vie, mes amis, ils m'aiment. Moi, je m'aime. Ma famille m'aime. Il y a même des gens que je connais pas, mes abonnés qui m'aiment. Enfin, franchement, je vais pas me plaindre, tu vois. Genre, c'est plutôt. Incroyable, même si effectivement bah, y aura toujours des gens qui nous aiment pas, mais bon, comme je dis, il faut mieux ne pas les calculer. Alors, moi aussi, je pense que j'en avais un petit peu qui pouvait matcher. Je pense que j'en avais un qui devait matcher. Justement, c'est exactement le mien. J'avais écrit, ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde, chacun a ses goûts, et aussi chacun est sans arrêt focus à penser la même chose que toi, tu vas penser, c'est-à-dire, j'ai envie de plaire à tout le monde, est-ce que les gens me regardent, est-ce que je suis pas moche, tu sais, quand t'es dans la rue ou en soirée, est-ce que je plais, est-ce que. Les gens vont pas trouver que je suis habillée bizarrement, etc. En fait, moi, des fois, tu sais, je regarde les gens et ça me fait trop bizarre depuis que je suis petite, en fait. Quand je regarde un peu de loin et que je vois beaucoup de gens, je me dis, c'est quand même un truc de fou que le monde marche. Genre, en fait, que tout le monde s'emboîte avec tout le monde, que tout le monde a sa propre réalité dans sa tête, son monde, comme moi, j'ai mon monde, tu vois. Et que tous les gens que tu croises dans la rue, en fait, ils ont leur monde dans leur tête et qu'on arrive tous à cohabiter.
Ouais.
C'est vraiment une fourmilière de fou. C'est hyper impressionnant. Et du coup, de se dire qu'en fait, parce que toi, t'as comme insécurité ou comme pensée dans ta tête, etc. En fait, la personne que tu vas croiser en face, elle a aussi son petit monde dans sa tête et elle a sûrement ses insécurités, ses trucs. Et du coup, bah, en final, ça sert à rien de se prendre la tête parce que vraiment, on a tous 1000 trucs à penser de plus que ce à quoi tu vas ressembler ou ce que tu peux dire, etc. Et tout au plus, la personne, elle te trouve moche. Bah, tu te trouves moche. Mais dans 5 minutes, elle t'aura zappé, genre. Alors, à moins que tu sois habillé abracadabra, t'as mis des échasses, un tutu violet, etc. Et bon, bah là, peut-être les gens vont se rappeler de toi. Mais sinon, à partir du moment où même t'es entre guillemets dans la norme, ou même que t'es un peu excentrique et tout, enfin, je veux dire, en tout cas, si t'habites à Paris, moi, des gens qui s'habillent de manière excentrique, que j'en croise tous les 4 matins, tous les 10 minutes au moins, je vois une personne un peu habillée excentriquement, je me rappelle même pas du quart du tiers de qui j'ai vu, quoi.
Et du coup, tu vois, ça me fait penser à la prochaine leçon de vie que j'ai écrite, c'est. Ne jamais mépriser quelqu'un parce que tu ne sais pas où il sera plus tard et peut-être qu'un jour, tu auras besoin de lui.
Mmh.
Et je trouve que c'est important de ne pas mépriser les gens parce que, comme on le dit, bah, on est tous différents. On a chacun nos vies, nos centres d'intérêt, etc. Et en fait, j'ai pensé à cette leçon de vie parce que quand j'étais, par exemple, à Sciences Po, il y a des gens qui ont pu grave me mépriser parce que j'étais la nouvelle, que je suis arrivée en deuxième année, qu'ils se connaissaient tous de la première année et tout, et donc c'était pas forcément simple et évident de s'intégrer.
Mmh.
Et du coup, il y a des gens qui ont pu un peu me mépriser ou ne pas vouloir en tout cas m'intégrer dans leur groupe. Même, tu sais, qu'on en parlait ce midi quand tu dois faire des exposés et que tous les gens se mettent ensemble et toi, t'as pas de groupe parce que personne te calcule et on te méprise un peu et tout. Et qu'au final, je vois qu'aujourd'hui, ils sont dans mes DM et que ça me demande de partager leur projet, leur start-up, leur association, ceci, cela. Je suis en mode, ah bah,
d'un coup, là, t'as bizarrement, besoin de moi. Ouais, d'un coup, t'as besoin de moi. D'un coup, je suis intéressante.
Mm.
Non, mais c'est clair. Moi aussi, ça m'a fait un peu le coup avec des personnes qui étaient pas forcément hyper méchantes, mais qui me considéraient pas ou avec qui j'ai eu des petites embrouilles, mais tu sais, des petites embrouilles que j'avais rien fait pour avoir, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, en fait, si vous vous rendez compte que vous étiez méchant, en fait, c'est des gens, je pense qu'ils ils se rendent pas compte qu'en fait, ils ont été méchants à un instant T. Du coup, ils se permettent de fou. Ils reviennent comme ça, comme si de rien n'était. Alors que je suis désolé, mais on n'oublie pas, genre. Et ça, pareil, c'est l'air de rien, c'est un conseil. Tu peux pardonner, mais il faut pas oublier. Parce que après, du coup, tu deviens trop gentil. Moi, je trouve, c'est un conseil que j'avais pas prévu de dire, mais c'est vrai. Pardonner, c'est OK. Par contre, oublier, non. Parce que si t'oublies, en fait, après, d'ailleurs, c'est la porte ouverte à réaccepter des situations qui t'ont mis dans des positions où t'avais pas envie d'être, en fait.
Mais après, il y a aussi, ça pourrait être aussi une leçon de vie de se dire qu'on peut changer. Les gens peuvent changer.
Mmh.
Et ça, c'est vrai que je trouve que de base, t'es en mode, bah, j'ai une embrouille avec cette personne, c'est terminé. Mais en fait, je pense qu'on peut tous évoluer, tu vois. Je pense que même moi, j'ai pu. J'ai jamais harcelé des gens ou j'ai jamais fait des trucs de fou, mais je pense que j'ai pu quand même, par exemple, me moquer gentiment, tu vois, mais j'ai pu avoir des comportements pas
ou
très louables.
Ou un silence qui consent, ou des choses comme ça, genre les gens ils critiquent et toi t'es à côté, tu dis rien, ou trucs comme ça, quoi. Ouais, mais après personne n'est irréprochable, tu vois. Mais déjà, c'est bien de le reconnaître et c'est bien de savoir ce que c'est, comme ça tu ne reproduis pas dans le futur. Mais oui, c'est sûr que les gens ils peuvent changer. Je pense que justement, surtout jusqu'à l'âge adulte, etc., c'est là où tu vas être le plus amené à changer. Et en fait, tu continues de changer, je pense, tout au long de ta vie. Mais disons qu'après, je pense que tu as quand même un rythme de croisière qui s'installe. Et voilà. Ouais.
Mais tu vois, ça me fait penser à tout à l'heure, on parlait d'amitié. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir accepter. C'est que, comme tu disais, bah, parfois, on va être amis à un instant T et c'est OK. Et je trouve que ça se vérifie parce que, par exemple, j'ai des amis d'enfance avec qui j'ai grandi et maintenant on est tellement, tellement différentes qu'on va plus forcément avoir les mêmes envies aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est OK en fait. Tu vois, on a chacun évolué et aujourd'hui, bah, peut-être qu'on est plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave, tu vois.
C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour t'accompagner pendant des périodes et après, il faut les laisser partir. Mais après, ça veut pas dire couper les ponts, ouais. Etc. Mais juste, bah, tu peux prendre des nouvelles de temps en temps, etc.
Mais il y a un truc que j'ai appris et que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est que j'avais noté aussi, il y a des personnes que tu peux ne pas voir pendant des années, mais ta relation restera toujours la même. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui. J'ai des amis qui sont assez loin de moi, que je vais voir une fois par an. Ou même il y avait une amie là que j'ai revue il y a pas longtemps et je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais on a calculé, ça faisait 3-4 ans qu'on s'était pas vu et au final quand je l'ai revue c'était normal, genre j'ai l'impression
comme si rien n'avait changé. Ouais, mais c'est ça aussi l'amitié, c'est que des fois tu peux ne pas voir la personne pendant 1000 ans et en fait vous allez rester les mêmes personnes, dans le fond, pardon. Moi je sais que ça m'a fait ça là-bas justement avec mon ami Lee, là, le chinois. Bon, il est chinois pour de vrai, hein, c'est pas que je dis ça. Et en gros, je suis censée peut-être aller le voir. Enfin, on a rediscuté là en FaceTime. Ça faisait, je pense, peut-être un an au moins qu'on s'était pas vu en FaceTime. Et ça doit faire 4 ans qu'on s'était pas vu. Je l'avais rencontré quand j'étais à Singapour. Et en gros, on a discuté. On s'est dit, mais en fait, on devrait grave se voir. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, que j'aille en Chine. Faut le savoir. Ouais. Faut que je vois comment ça marche, les papiers, etc. Mais je me dis grave, en fait, parce que quand je l'ai eu au téléphone, moi, au début, j'avais une appréhension. Je me suis dit, bon.
Ça te stressait un peu, limite.
Ça me stressait un peu, parce qu'en plus, je sais qu'entre-temps, tu sais, il avait eu des petits soucis de santé et tout. Donc, je me suis dit, peut-être, il a peut-être un peu perdu la joie de vivre ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai, tu peux pas savoir, en vrai, comment les gens traversent les épreuves. Et moi, en plus, faut savoir, parce que, attention, j'ai essayé de l'appeler, etc. Mais lui, il est sur WeChat et tout. Donc, en fait, des fois, je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp, des dizaines de messages. Et en fait.
Ils ont pas WhatsApp là-bas.
Non. Après, il peut avoir WhatsApp avec son VPN et compagnie, mais genre, j'ai l'impression que limite, il utilise WhatsApp pour moi. Et même Insta, ils l'utilisent pas trop. Ils ont deux trucs, ils ont WeChat et un autre truc. Mais bref, et donc ce qui fait que, en fait, des fois, on n'était pas en contact pendant longtemps. Et là, quand je l'ai revu au téléphone, vu que ça faisait un an qu'on ne s'est pas parlé de vive voix, je me suis dit, wesh, ça se trouve, ça va être hyper étrange, etc. Et en fait, au bout de deux minutes, j'étais en mode, oh, ça y est, c'est mon petit lit. En plus, c'est en anglais. C'est sûr, ça rajoute aussi une petite barrière supplémentaire parce que quand j'étais à Singapour, je parlais tout le temps anglais avec lui. Du coup, putain, je raconte ma vie de fou, mais bref, quand j'étais tout le temps là-bas, on parlait anglais. J'avais oublié, j'ai oublié que je parlais en anglais à l'époque parce que j'étais tellement dans mon truc, ça me paraissait être du français, tu vois. Et du coup, quand je l'appelle, des fois, je suis un peu en mode oula, mon anglais rouillé là. Des fois, je dis n'importe quoi, j'arrêtais pas de dire 100 au lieu de 1000. Du coup, ça voulait plus rien dire parce que je calculais les billets, etc. Bref, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, oui, la distance et la durée peuvent faire peur, mais en réalité, des fois. L'amitié, si elle est là, quoi. Après, juste, j'avais, parce que je parlais de voyage, je vais partir sur une de mes leçons. J'avais partir en voyage seul peut te faire peur, mais ça va permettre de te connaître et de prendre confiance en toi. Moi, je sais que justement, quand je suis partie à Singapour, il faut savoir qu'il y avait deux personnes que je connaissais, mais je ne suis pas partie en même temps qu'elles et je ne les ai pas vues justement, parce que c'était des meufs qui, j'en ai parlé il y a deux secondes, des meufs qui m'avaient fait des embrouilles quand j'étais à l'école, pour rien, qui après, du coup, sont revenues s'excuser carrément plus tard. Et en fait, elles allaient aussi à Singapour à ce moment-là. Donc moi, clairement, j'allais pas les calculer parce qu'elles avaient été mauvaises avec moi, tu vois. Et donc, on n'a pas pris les mêmes billets d'avion. Même, on était sur un énorme campus. Donc, je les ai croisées en tout deux fois en six mois. Donc, comment te dire que j'étais vraiment solo. Je connaissais personne d'autre. Et franchement, au début, ça fait peur parce que tu te dis, je suis à l'autre bout du monde. Genre, même comment je vais me refaire des amis? Est-ce que les gens vont apprécier mon humour? Est-ce que, tu vois, tu sais pas, tu vois. Et en fait, en réalité, je trouve que ce qui est intéressant quand t'es à l'étranger, c'est que t'as la possibilité de te créer une autre personnalité. En vrai, tu redémarres à zéro, personne ne te connaît. Tu peux te créer un autre truc ou quoi. Moi, au début, tu vois, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me la joue différemment ou je sais pas, tu vois. En fait, avec du recul, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était être moi-même. Et être moi-même, ça voulait dire être comme ci, comme ça, etc. Et du coup, j'ai découvert qui j'étais. En fait, en étant à l'étranger, parce que je me suis rendu compte de qu'est-ce que j'aimais faire avec des gens que je connaissais pas et avec les gens que je connais. En fait, c'est la même chose. Donc tu comprends en fait qui tu es vraiment et que c'est pas juste tu le fais parce que t'as eu l'habitude de le faire, tu le fais parce qu'en fait c'est qui tu es, tu vois. Et même au-delà de ça, je trouve que tu découvres toujours en sortant de ta zone de confort, en te donnant des challenges, etc. Et je trouve que c'est difficile de se challenger quand t'es dans ton cocon habituel. Genre, c'est bizarre, t'habites dans ton village, il y a 1000 habitants, du jour au lendemain tu vas pas commencer à faire la macarena au milieu de la place,
Ouais.
Juste parce que tu veux expérimenter de danser en public, tu vois, c'est bizarre. Alors que quand t'es à l'étranger, bah, en fait, tu vas expérimenter plein de petits trucs parce qu'il va t'arriver des galères et des trucs et il faut forcément que tu réagisses. Et en fait, plus tu vas réussir à te sortir de situations un peu à la con ou des situations gênantes ou des situations voilà, où tu ne seras pas mis d'habitude, plus tu vas dire en fait, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un d'assez fort pour surmonter plein de choses. Et du coup, bah, après, tu rentres et puis tout te paraît facile, quoi.
C'est vrai, mais... Je pense que le voyage, c'est vraiment une leçon de vie incroyable. Enfin, je pense que tous les deux, on est accro au voyage aussi pour ça, parce qu'on adore découvrir de nouvelles cultures. Tu parles pas la langue, donc tu dois te démerder. Franchement, c'est ouf. Franchement, le voyage, c'est ouf. Pour avoir aussi fait un échange à l'international.
Après, voilà, je pense que vous n'êtes même pas obligé de partir si loin que ça, parce que moi, j'en sors des trucs de fou. Chloé, elle est partie en Argentine, moi, je suis partie à Singapour. Mmh. C'est vrai que c'est archi loin, mais en réalité, même tu pars à Barcelone, je suis sûre que tu as quand même cette sensation, en fait, de juste de repartir à zéro, d'être dans un nouveau langage, une nouvelle culture, et c'est la même chose, tu vois. Même, je suis sûre que tu pars en Suisse, les gens, ils sont aussi différents, tu vois.
Ouais.
Bon, peut-être c'est à moindre mesure, mais ça n'empêche. Genre, moi, quand je suis partie chez ma pote en Suisse, j'étais comme en mode. J'ai l'impression que les Suisses, ils sont plus calmes, plus polis et tout, et du coup, j'avais l'impression d'être un peu une mal poli, tu vois, enfin, je sais pas, je pense que n'importe quel échange, n'importe quel voyage peut être bénéfique, et surtout seul, je trouve.
Et tu vois, sur le thème du voyage, je trouve que ça rejoint pas mal un truc que je voulais dire, c'est que les gens ne t'aiment pas pour ton physique, mais pour ta personnalité et ce que tu es, et ça, j'en ai aussi beaucoup pris conscience en voyage, parce qu'en fait, quand tu voyages, tu te rends compte que les standards de beauté, bah, en fait, ils sont vraiment façonnés par la société. Et genre, si tu vas aller à un endroit, tu vas être la plus belle et tu vas aller à un autre endroit et on va te trouver hyper moche.
Mmh.
Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, pourquoi reposer ma valeur sur mon physique qui est tellement subjectif en fonction de où je vais aller, de qui je vais avoir en face de moi. Et je trouve que vraiment notre force, ça reste avant tout notre personnalité et nos amis nous aiment pour ce qu'on est. Moi, Tania, je te kiffe pas... parce que tu fais tel poids ou parce que tu prends du 46.
Je suis vexée, wesh.
Si demain, tu t'habilles en 36, je t'aimerais pareil, tu seras Tania, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, même, enfin... Déjà, oui, ça, c'est clair, mais genre, il y a un autre truc, quand même, que je trouve qui, par contre, que je suis un petit peu perturbée, c'est que je tiens quand même à dire qu'il y a toujours le beauty privilege qui existe.
Mm.
Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce beauty privilege, c'est à quel point c'est éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça marche sur des trucs à la con. Genre, on va te laisser passer dans la rue plus facilement, ou peut-être les gens vont être plus souriants, etc. Mais au final, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir plus d'amis ou des choses comme ça, tu vois. Et ça, je trouve, ça s'est grave vérifié quand j'étais dans les échanges et tout. En fait, même moi, et je dois l'avouer, même moi, des fois, j'avais ces trucs-là où, je sais pas, tu vas avoir une fille qui est belle ou un mec qui est beau, et naturellement, tu vas. Je sais pas, tu vois, c'est un peu inexplicable, mais tu vas aller plus être friendly avec cette personne-là de prime abord, comme ça, ou une personne qui s'habille bien, ou peu importe. Mmh. Et en fait, après, derrière, ben, je trouve que sur la durée, tu te rends compte qu'en fait, ces personnes-là, bah, peut-être elles t'ont fait cette image-là, mais si le caractère ne suit pas, en fait, tu vas vite aller voir quelqu'un d'autre, tu vois.
De ouf.
Et moi, je me rends compte, bah, typiquement, quand j'étais à Singapour, mon amie Lee, je ne l'ai pas du tout choisie pour sa beauté. Limite, enfin, c'est pas pour être méchante, mais j'étais en Asie, du coup, il y avait quasiment que des Asiates, etc. Donc, moi, je vois la différence entre chaque Asiate et chaque pays, etc. Mais ça n'empêche que bah, ce n'est pas forcément mon type de beauté préférée. Et il y en avait plein, tu vois, partout. À Singapour, c'est 50% de Chinois. Donc, bon. Genre, j'avais pas d'intérêt à aller voir Lee en mode oh là là, sexy guy et tout. Mais en fait, il s'est avéré qu'il m'a, je sais pas, il m'a dit une phrase que je trouvais hyper drôle. Il m'a taclé. J'étais en mode oh, quelqu'un qui me tacle à Singapour, que les gens sont tous gentils. Mais c'était un petit tacle à la con parce qu'en fait, je faisais des arcs-en-ciel, il faut le savoir, en cours avec mes stabilos sur mon carnet. Et en fait, il a regardé mon cahier. Il était choqué de voir que je faisais des arcs-en-ciel au lieu d'écrire des trucs du cours. Et du coup, c'est foutu de ma gueule. Et après, j'étais en mode putain, il est piquant ce petit joint là. Et du coup, ça m'a fait rire. Après, on a fini par discuter toute la soirée. Je cachais pas quelle heure. Et je me suis dit, tu vois, physiquement, il m'attirait pas comme une abeille vers du miel. Et pourtant, bah, après, je me suis plus décroché de lui pendant 6 mois, tu vois.
Ouais. Parce que ça matchait.
Oui, parce que ça matchait dans le fond. Genre, le fond, certes, la forme fait que des fois, peut-être, les gens vont être plus avenants, etc. Mais le fond fait que les gens restent. Et
mais j'ai jamais choisi mes amis en fonction de leur physique, de toute façon. Et j'allais te dire, est-ce que ça fonctionne aussi pour les réseaux sociaux? Alors, je trouve que oui et non, parce que certaines filles, certaines créatrices de contenu vont avoir le beauty privilège et devenir beaucoup suivies sur les réseaux parce qu'elles sont belles. Mais je trouve qu'on a aussi beaucoup d'exemples de personnes qui ne rentrent pas forcément dans les standards. Je ne vais pas nommer des gens, mais qui n'ont pas forcément le physique attendu des standards de beauté et qui pourtant cartonnent sur les réseaux, tu vois. Parce qu'ils ont ce truc en plus, ils sont drôles, ils sont divertissants.
Intéressants, divertissants, ou peu importe.
Et tu vois, par exemple, sur les réseaux, je trouve que ça ne se vérifie pas. Regarde-moi la preuve... Je suis très suivie et pourtant je suis pas.
Je suis chum sa mère.
Je suis dégueulasse. Non. Je rigole. Non, mais tu vois.
Ouais, je après, je tiens pas... quand même.
Si... Mais il y a quand même le beauty privilège.
Moi, je pense que c'est quand même représentatif. Mais je pense que c'est représentatif de la vie de tous les jours. Le beauty privilège, il existe. Donc, il y a quand même un gros pâté de gens qui sont là juste pour leur physique sur les réseaux.
Oui.
Mais après, t'as aussi la réalité qui est que bah, les gens. Il y a des gens qui vont les regarder juste pour leur physique parce qu'ils veulent les envier, parce qu'ils veulent se comparer ou peu importe. Sauf que c'est juste beau. Et après, t'as tous les gens qui vont chercher à avoir un contenu qui les divertit, ouais, les amuse,
exactement,
leur faire prendre des choses. Et en fait, dans la vie, c'est un mélange de tout, tu vois. C'est OK de trouver des gens beaux et d'aller vers eux naturellement parce que bah, tu contrôles pas forcément. Mais après, derrière, normalement, si vous faites le compte, dites-nous les copes si vous pensez pareil. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui me retient avec les gens, c'est ouais, surtout le caractère, quoi, et ce qu'ils ont à m'apporter au quotidien. Voilà. Ok, c'était intéressant. On est parti pour cacahuète, mais c'est intéressant. En fait, il n'y a plus du tout de compte, il faut le savoir. Je ne sais pas, on est à combien tu me conseilles. Mais moi, j'en avais comme noté plein. Donc, normalement, vous en avez au moins 10 chacune, je le jure. Donc, il me reste encore. Attention, attention. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah, bah, par exemple, tu vois, un truc qui est intéressant, je trouve, c'est. J'ai noté, fais toujours de ton mieux. Les éléments perturbateurs ne t'appartiennent pas. Tant que tu fais de ton mieux, c'est le principal. En fait, je trouve que dans la vie, si tu ne fais pas de ton mieux, tu peux finir par t'en vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as pas été au bout des choses, si t'avais eu une pensée et que tu l'as pas fait, et que tu te rends compte qu'en fait, bah, si tu l'avais fait, peut-être ça aurait changé quelque chose et tout. Vraiment, les regrets, c'est horrible, je trouve. Alors qu'en réalité, tu vois, si tu fais les choses jusqu'au bout, mais qu'il y a une couille après derrière qui fait que bon, bah, malheureusement, ça s'est pas passé comme tu l'imaginais, tu pourras jamais te reprocher d'avoir fait de ton mieux. Genre, dans tous les cas, tu fais de ton mieux. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui m'entourent. Parce que des fois, j'ai des amis ou même de la famille qui sont là en mode oh, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, si j'avais fait ci, etc. Je dis mais est-ce que sur l'instant T, t'aurais pu faire ça? Est-ce que tu te sentais de faire ça? Est-ce que ça aurait été acceptable pour toi? Ou est-ce que ça t'aurait pas trop fatigué de faire ça? Ou qu'est-ce qui a fait que t'as fait cette décision-là? Est-ce que c'était de ton mieux ou pas? Ils me disent bah ouais c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais fatiguée ou nanana, et du coup bah c'était ce qui me semblait être le mieux pour moi, parce que dans ce cas-là si ça te semblait être le mieux pour toi c'est que t'es une bonne personne quand même, juste t'as peut-être pas répondu aux attentes de la personne et ça arrive et dans ce cas-là on s'ajuste, mais au moins n'y a rien à te reprocher, ça c'est je trouve hyper important.
Ouais, et c'est aussi cette idée de parfois il faut prendre des risques et moi je suis tellement contente de les avoir pris parce que sinon je serais pas sur les réseaux aujourd'hui quoi. Genre j'avais tellement peur, je me disais tout le temps putain j'aimerais trop être comme Enjoy Phoenix quand j'étais petite, je la suivais et tout, on a le même âge, j'étais en mode ah j'aimerais trop être youtubeuse etc, et j'ai mis des années avant de me lancer.
Ouais, c'est pareil.
Je me dis heureusement je l'ai fait parce que j'ai pas de regrets aujourd'hui, tu vois.
C'est clair. Bah c'était une de mes leçons, figure-toi, j'ai mis si tu n'essayes pas tu ne sauras jamais si ça aurait marché.
Ouais.
C'est vraiment vrai, bah pareil pour moi en vrai, genre ça faisait des années que je regardais les réseaux sociaux, que ça me faisait kiffer, que je consommais énormément de contenu et tout. Et je me disais, la chance, etc. Et en fait, jamais j'avais essayé.
Ouais.
Et le jour où j'ai essayé, ça a marché. Je me suis dit, oh waouh. En fait, ça se trouve, j'aurais pu commencer il y a 10 ans.
Ouais, je pareil. Et je me dis, mais j'aurais pu commencer à l'époque de YouTube et tout.
Et même encore maintenant, hein, les copes, s'il y en a qui veulent se lancer, etc.
Il y a encore de la place. Possible. Hein,
ouais. Il y a encore de la place. Il y aura toujours des personnes qui vont plus ou moins être actives, d'autres qui vont être très actifs. Il y a des sujets peut-être qui vont être. Pour moi, s'il y a un conseil à vous donner, peut-être ça pourrait vous intéresser qu'on vous donne des conseils sur l'influence, si jamais ça vous dit de vous lancer un jour. Mais vraiment, pour moi, le truc, c'est d'avoir une passion ou une envie de partage qui est très forte. C'est ça, pour moi, le premier facteur. Parce que vous n'allez pas percer en une fois. Et même si vous percez en une fois et que vous n'avez pas de. Sur la longueur, ça va être. Ça va pas marcher. Mais si vous avez une passion à partager ou une envie de partage qui est vraiment forte, tentez, on sait jamais, ça peut marcher. Ouais.
De ouf, j'aimerais trop. Je pense que c'est trop niche, mais j'aimerais trop un jour donner tous les conseils et tout pour.
Ouais. Ça pourrait être intéressant. Dites-nous les cops, parce que nous, bon, bah, en fait, on est tellement dans notre jus que pour nous, c'est hyper intéressant. Mais en fait, ça se trouve, tout le monde s'en fout de devenir influenceur, quoi.
Ouais. C'est pas même devenir influenceur, mais tu sais, se lancer sur les réseaux et tout.
Ouais. Ensuite, alors moi, j'avais quand même que justement, c'est OK de ne pas savoir ce que tu veux faire ou être plus tard et même de changer d'avis. Genre, je trouve que, bon après, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai, on demande aux enfants de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je me rappelle, on me posait la question, limite, j'avais 8 ans.
Tout le temps, ouais.
Tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Alors bon, tu donnes ce que ta réalité te donne comme option. Genre, quand j'étais petite, moi, je savais que j'aimais bien faire à manger, donc j'étais en mode cuisinière. Après, j'aimais faire les pâtisseries, pâtissière. Après, on me disait que c'était bien mon père, il a des problèmes de dos, des fois, je le massais, il disait, bah, tu pourrais faire kiné. Bah, tu sais, des trucs comme ça, donc j'étais en mode oui, mais c'était vraiment genre les trucs pratico-pratiques que j'avais autour de moi. Mais la réalité, je me dis toujours que c'est un truc de fou, mais genre là, je regarde dans l'appartement de Chloé, je me dis, bah, cette cheminée, il y a un mec qui l'a créée. Cette télé, il y a un mec qui la vend, il y a un mec qui l'a créée, il y a un mec qui la met sur son site, il y a un mec qui la livre. Il y a les moulures qu'il y a sur ton plafond, il y a un mec qui les moule, il y a un mec qui les design. En fait, il y a tellement de métiers, c'est un truc de fou. Comment tu peux demander à un enfant de choisir un taf, ouais, même un adulte, parce qu'en réalité, moi aujourd'hui, j'aime bien faire du contenu sur les réseaux sociaux. Peut-être que demain, je vais faire une overdose des réseaux sociaux et je vais vouloir faire de la poterie. Et après, ouais, la poterie, ça va me saouler, je vais faire de la peinture.
Mais en fait, à chaque fois, c'est chiant parce qu'on nous propose toujours les trucs bateaux. Enfin, pas bateaux, mais je veux dire classiques. Genre, tu veux être infirmière, médecin, avocat, ou tu veux être pompier ou mécano ?
En fait, je pense que c'est parce qu'ils sortent les métiers, soit qu'ils sont déjà représentés dans les jouets, etc. Enfin, c'est nous, naturellement, on sort ça, parce qu'en réalité, tu vas pas sortir à ton daron. Je veux être, je sais pas moi, manutentionnaire. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu les vois même pas, ces métiers-là, ouais, donc tu penses pas, tu vois. Mais donc, je pense qu'on donne ce qu'on a sous la main, mais peut-être que nos parents pourraient essayer de nous aider. Après, je sais que par exemple, moi, mon père, à l'époque, il m'avait acheté le dictionnaire des métiers.
Ah ouais ?
Ouais, sauf que bon, tu me vois, moi,
lire
le à 14 ans déjà, lire un dictionnaire avec. Mais c'était intéressant en réalité, parce que du coup, tu feuilles et puis tu vois, je sais pas, inspecteur en nécrologie, je sais même pas si ça existe, et il t'explique dans les grandes lignes, sur 2-3 lignes, tu vois, c'est quoi le taf et tout, okay, ce que je peux te dire, ah, peut-être ça peut m'intéresser et tout. Mais bon, voilà. Miskin papa, il l'a acheté pour rien. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution pour ça. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est normal aussi, dans la vie, on évolue, on a des centres d'intérêt qui changent, on a des amitiés qui changent, ouais, et on a des fois envie de s'ouvrir sur des nouveaux trucs.
Et tu vois, moi, j'aurais rajouté une petite leçon de vie là-dessus, j'aurais mis « tu n'es pas lié à vie à ton travail ». Parce que je trouve que parfois, quand t'as un CDI, bah, tu te dis « non, je peux pas le quitter ». Et moi, c'est peut-être ce que j'ai vécu aussi à un moment donné, où j'étais dans un taf pendant 2 mois et ça s'est passé super mal, avec beaucoup d'harcèlement au travail, etc. Et bah, je me suis cassée du jour au lendemain. En gros, je suis allée dans le bureau du patron. Je lui ai dit « voilà, il y a ci, il y a ça, il y a là ». Il m'a dit « écoute, ça ne changera pas si t'es pas contente. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas ». Du coup, j'ai dit « oui ».
Oh wow.
Oui. Bah d'accord, il était d'accord, très bien, bah tu termines demain. J'ai dit très bien, je prends mes cartons, comme dans les films, et hop, je me suis cassée, j'étais encore en période d'essai. Donc du coup, je me suis cassée et je suis pas restée, tu vois, et je me dis putain, c'est ouf que j'ai eu le cran de le faire.
Ouais, c'est ouf. T'avais quel âge ?
Bah c'était mon premier taf,
ah, okay,
en sortant de l'école. Et du coup, je me dis mais ouais, en fait, on est. Après, je pense que ça va beaucoup avec notre génération. Mais en fait, ça, si tu te sens hyper mal au travail, que tu es au bord du burn-out, etc., pourquoi t'imposer ça ? Je comprends que parfois, il y a des raisons financières, etc. Mais moi, je me disais, bah, y a pas mal d'offres sur le marché. Vas-y, on est à Paris, je vais trouver, tu vois. Donc, ça m'a aussi facilité les choses, mais je me suis cassée. Ouais, ouais. J'ai privilégié ma santé mentale.
Ouais, alors je suis d'accord, c'est hyper important, mais c'est vrai que je vois il y a des cas où, voilà, quoi, c'est compliqué. Moi, je vois par exemple mon père, là, il est pas forcément bien dans sa boîte. Il a 2 ans de la retraite.
Oui, bien sûr.
Quand t'es âgé, trouver un travail. Enfin, en fait, il y a plein de petits cas, tu vois. Même, par exemple, toi, tu pouvais te permettre peut-être d'être au chômage pendant quelques mois, mais si t'as des frais qui sont, par exemple, pour ta famille.
Oui, oui, non, mais
en fait,
bien sûr.
Il y a plein de cas archi compliqués, mais c'est sûr que si vous en avez la possibilité, ne vous mettez pas des barrières qui n'existent pas.
Ouais, après, je pense que tu peux toujours trouver autre chose. Après, voilà, moi, je suis partie du jour au lendemain. Mais sinon, ça se prépare, quoi. T'as ton préavis de 3 mois et t'essayes de voir si t'as d'autres solutions, si tu peux te reconvertir, voilà.
Mais je veux dire, ne vous complaisez pas dans un truc dans lequel vous vous êtes pas bien.
Faut pas se dire que c'est impossible et que t'es obligé de subir.
Voilà, il y a toujours quelque chose qui est possible, mais juste, bah, il faut. Si ça vous met vraiment mal, il faut trouver les options pour en sortir. Même que et ça marche pour tout. Ça marche pour les relations toxiques, etc. Ça paraît toujours impossible parce que vous êtes englobé là-dedans, si vous avez la tête dans le guidon, comme on dit. Vous voyez que par ça, vous avez l'impression que vous êtes défini par votre relation, par votre métier ou peu importe. Alors qu'en réalité, ben non, c'est possible de changer. Et même si c'est galère et que ça prend du temps, en général, enfin, tous les gens qui l'ont fait en sont ressortis plus heureux. Donc ça vaut le coup.
Et du coup, dans le même thème, je dirais, ta santé mentale est tout aussi importante que ta santé physique. Aller voir un psy n'a rien d'anormal. Je pense que peut-être si tu reviens un peu 10 ans en arrière, aller voir un psy, c'était un truc de ouf. Je pense que les seuls potes que j'ai eu dans mon entourage qui étaient allés voir un psy, c'était peut-être au divorce de leurs parents ou un truc comme ça. Mais j'ai jamais entendu, jusqu'à il y a quelques mois ou quelques années, quelqu'un me dire bah, « je suis allée consulter un psy parce que ça va pas, parce que j'ai de l'anxiété, parce qu'il y a ci, ça dans ma vie ». Et j'avais l'impression que c'était vraiment un truc grave. Genre, si t'allais chez le psy, c'est vraiment... je sais pas, t'avais perdu un proche, que t'avais un décès dans ta famille ou un accident, etc. Mais c'était vraiment un peu... Enfin, c'était pas normalisé comme ça allait aujourd'hui. Et ça peut être encore tabou aujourd'hui de dire j'ai rendez-vous chez le psy. Je trouve que c'est quand même hyper important. On parle toujours de la santé mentale. Ah, gna, 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 il faut perdre du poids. Gna, gna. Est-ce que tu m'as demandé comment je me sentais mentalement?
T'as dit santé physique, enfin santé mentale, du coup ça va perturber. Mais oui, je suis d'accord. En fait, on pense trop à l'enveloppe corporelle parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit de prime abord.
Ouais.
T'as une infection à l'œil, on va le voir tout de suite. T'es en surpoids, on va le voir tout de suite. Il te manque une jambe, on le voit tout de suite. Mais en réalité, ça, c'est des trucs physiques, mais l'intérieur, il est archi important. Mm. Tu peux avoir tes deux jambes, tes deux nananis, si ça va pas dans ta tête, tu iras nulle part. Tu resteras dans ton lit et tu parleras à personne et tu seras malheureux, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des gens, il leur manque deux jambes, ils sont plus heureux que des gens qui les ont. C'est un truc de fou.
Et je pense qu'il faut vraiment aussi être à l'écoute de son propre corps, mais aussi des autres, de ses proches. Et tu vois, c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre de leçons de vie là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai eu quelqu'un dans mon entourage familial qui a eu des très très gros problèmes psy. Et du coup, je pense qu'on a aussi beaucoup laissé traîner parce qu'on n'était pas trop sensibilisés au sujet. Tu sais, on savait pas trop. Mmh. C'était il y a déjà 7 ans, un truc comme ça. Donc, on savait pas trop. Et puis, jusqu'au jour où tu arrives un petit peu au point de non-retour où la personne, elle est vraiment... plus bas que terre, elle doit être allée à l'hôpital, etc. Mmh. Et c'est vrai que je m'en suis un peu voulu et du coup j'ai été consulter un psy pour ça qui m'a dit bah t'as pas à culpabiliser, c'est pas ta responsabilité la santé mentale de quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même eu ce sentiment de culpabilité, de me dire bah je l'ai peut-être pas assez aidé, j'aurais peut-être dû lui suggérer de se faire aider à temps, etc. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui avec les armes que j'ai, oui ce serait peut-être potentiellement...
ça serait passé différemment. Ouais. Mais encore une fois, je pense que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à l'époque comme truc. Tu avais ta vie à gérer à côté, tu n'avais pas forcément les outils pour comprendre ce qui se passait. Enfin, je pense que si tu avais la connaissance que tu as actuellement sur le sujet et que tu avais vu le cas devant toi aujourd'hui, tu aurais réagi différemment, tu vois.
Ouais,
donc, encore une fois, à partir du moment où tu as fait ce que tu pouvais et ce qui te semblait être cohérent à ce moment-là, ben, en fait, tu n'as pas à t'en vouloir. Mais par contre, tu peux prendre des actions pour qu'aujourd'hui, tu fasses de ton mieux qui correspond à un truc un peu mieux qu'avant. Mmh. Voilà. T'en as encore un ou tu peux...
Bah, moi, après, ça va plutôt être sur l'alimentation, le sport, etc.
Mmh. Alors moi, j'en ai peut-être un qui peut un petit peu amener là-dessus, c'est la raison qui te faisait du mal quand tu étais plus jeune te fera probablement de toi une personne plus forte en tant qu'adulte. Alors moi, ça, je parle par exemple de, comme, du fait que j'étais grosse quand j'étais petite et que du coup, dans une famille grossophobe, on critiquait énormément. Et, du coup, c'était quelque chose qui me mettait dans le mal et qui m'a fait de la peine, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et même malgré tout, j'ai pas subi un harcèlement de fou, mais je sentais quand même que j'étais un enfant différent et que je plaisais pas forcément, comme j'expliquais avant le lycée. Moi, c'était la hesse de fou. Donc bref. Du coup, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'en ai vachement souffert. Et en fait, actuellement, j'ai l'impression que, au contraire, c'est quelque chose qui a fait de moi que je me suis développée sur plein d'autres aspects, y compris l'air de rien, l'aspect physique, parce que je me trouve... en tout cas, je prends soin de moi et je fais en sorte de me sentir bien. Et en plus de ça, à force d'essayer, en fait, j'ai fini par me sentir bien dans ma peau. Et en plus de ça, le truc qui est bien, c'est que ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi sur plein d'autres aspects parce que je me suis développée sur tout ce qui pouvait être compensatoire, on va dire. Tu vois, donc comme je savais que mon physique c'était pas forcément ce qui marchait le mieux socialement, et du coup je me suis grave je me suis développée sur plein d'autres aspects, tu vois.
Ouais.
Ce qui fait que du coup maintenant je suis super heureuse parce que non seulement j'ai confiance en moi dans mon physique, et en plus de ça je suis confiance en moi dans mon mental parce que je me suis poussée. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait ça également. C'est par exemple si t'as eu des problèmes de famille quand t'étais plus jeune, etc., et peut-être que tu vas être quelqu'un qui va être du coup super à l'écoute. Tu vois, en fait, tu vas développer des trucs, en fait, à travers les épreuves que tu vis. Tu développes un truc, peut-être dans la douleur après, tu vois. C'est pas quelque chose qui va être agréable, mais c'est quelque chose qui va faire de toi une force, je trouve, à l'avenir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, carrément. Bah, après, moi, je l'ai peut-être ressenti dans une moindre mesure avec la couleur de cheveux, tu vois, qui était... Enfin, je me sentais différente et au final, aujourd'hui, il y a marqué Ginger Chloé dans mon pseudo, tu vois. Mmh. Donc, ouais, je pense que le fait... en fait, je trouve que par exemple, quand t'es rousse, en fait, t'es tellement habitué déjà tout petit à être remarqué, à être différent des autres, etc., à être moqué parfois, que j'ai l'impression que j'ai pu développer une certaine forme de résilience, une force mentale que j'aurais pas eu peut-être si j'avais pas eu ça. Mmh. En tout cas, c'est les conclusions un peu positives que que j'essaie d'en tirer, quoi.
Mais c'est sûr que... Fin...
De répondre aux autres, enfin, tu vois, de ne pas me laisser forcément faire. Je pense que ça vient aussi de là.
Et puis même, moi, je pense que forcément, quand t'as un bâton, enfin, un truc qui se bouge dans un coin, bah, tu vas toujours essayer de chercher une sortie vers autre chose.
Ouais.
Donc genre, si t'es pas bon, par exemple, socialement, t'as pas trop d'amis, etc., bah, peut-être que, en fait, dans ton coin, bah, tu vas développer un côté artistique.
Ouais.
Enfin, je pense que toujours, s'il y a une voie qui est bouchée, sans le vouloir, on va naturellement essayer d'aller gratter ailleurs, tu vois. Et l'endroit où tu vas aller gratter, bah, peut-être que c'est ça qui va faire que tu vas être une personne qui va avoir ta petite touche à toi à l'avenir.
Mais tu sais, d'ailleurs, j'avais déjà entendu dire des gens en mode « c'est bizarre, limite tous les influenceurs, ils ont été victimes d'harcèlement ».
Ouais.
Mais en fait, je sais pas si c'est parce que des gens s'inventent des vies. J'y crois pas trop non plus quand même. C'est gros d'inventer d'avoir été harcelé. Moi, je sais pas si j'ai pu être... Bon, je sais pas si on peut qualifier les moqueries que j'ai eues de harcèlement. Mais en tout cas, oui, j'ai eu pas mal de moqueries. Mais je pense que c'est peut-être pas anodin finalement. Tu sais, on se réfugie un peu dans... Ah bah, on s'est moqué de moi. Et du coup, t'as cette envie-là de prouver aussi à un moment donné aux autres que...
Que t'as de la valeur, ouais. Etc. Non, mais c'est sûr.
Moi, ça s'est clairement passé comme ça parce que... Déjà, quand j'étais au collège, j'étais la pro des blogs. J'avais des blogs partout.
Moi aussi.
Et je pense que, tu sais, je faisais même... Enfin, j'avais déjà une certaine habilité avec les réseaux sociaux.
Skyblog où tu mettais les belles typos, ouais, copains, voilà, les j'étais couleurs. Comme ça.
Aussi, j'avais plein de Skyblog sur mes séries préférées, sur ma vie, sur plein. Ah ouais, j'étais vraiment... j'avais le plus de commentaires. J'ai cherché là.
Commentaire égale commentaire, je rends.
C'est ça. Et je pense que j'ai toujours essayé de rechercher, en fait, de la reconnaissance sur les réseaux sociaux parce que c'était de la reconnaissance que j'avais pas forcément dans ma vie de tous les jours.
Ouais. Mais je suis d'accord, moi aussi c'est pareil. J'ai toujours eu un peu la course aux j'aime, aux trucs et tout. En fait, c'était un moyen de pallier au fait que bah, dans la vie de tous les jours, j'avais pas forcément, enfin je pense, hein, avec du recul, cette reconnaissance-là. Et du coup, bah, c'était un autre moyen, c'est une extension en fait que j'ai trouvée. Mais l'air de rien, ça m'a permis de me développer plein de trucs. Genre, je suis devenue très observatrice, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que les gens ils aimaient, ce que les gens ils aimaient pas et tout. Là où je pense que d'autres gens qui n'ont pas vécu autant ce côté-là où ils ne sont pas appréciés pour ce qu'ils sont, enfin ils sont appréciés directement pour ce qu'ils sont et tout, ils ne se prennent pas la tête.
Ouais.
Tu vois. Alors moi, je me suis pris la tête de fou et du coup, j'ai l'impression que bah, ça m'a amené à des belles. Enfin, de bonnes idées et de bonnes relations par la suite, quoi.
Et du coup, en parlant de créateurs de contenu, je voulais aussi rajouter une petite leçon qui est importante. C'est plutôt que d'envier les autres, inspire-toi de leur parcours. Et c'est vrai que... Plutôt que d'envier les autres, inspire-toi de leur parcours, ouais. Okay. Parce qu'en gros, je trouve qu'il y a toujours ce côté où... Je pense que même aujourd'hui, hein, on en parlait, on le fait encore, surtout dans notre métier... où tu vas avoir tendance à te comparer tes statistiques. Ah, elle a plus d'abonnés ou elle a tel collab, je ne l'ai pas eu. Moi, je n'ai pas été invitée à tel endroit et elle, oui. Et en fait, je me dis, plutôt que de prendre ça du côté un peu négatif, bah, plutôt s'en inspirer, tu vois. Ah, elle a fait ça. Ah, mais c'est génial. Moi aussi, j'ai envie d'arriver à son niveau. Moi aussi, j'ai envie de, d'avoir ce qu'elle a, mais pas dans un sens... envieux, jalousie malsaine, tu vois.
Bah oui, c'est clair, parce qu'en fait, tu dis... Enfin, après, c'est voir le verre à moitié plein, clairement. Parce que du coup, il y a des gens qui vont se dire, bah, oh, si elle a eu cette collab-là, c'est que moi, je suis pas bien, etc. Alors que quelqu'un va se dire, ok, fais voir, elle a eu cette collab-là, putain, mais en même temps, faut dire qu'elle a fait ça, ça et
ouais,
ça. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse pareil et tout. Et tu vois, tu peux vraiment, je trouve, apprendre beaucoup plus en ayant cette mentalité-là que la mentalité genre, oh, pourquoi elle, toujours elle, tu vois.
C'est clair. Ça vaut dans d'autres...
Dans tous les cas, en fait. C'est ça, c'est
pour ça que je dis voir le job, etc. Ah, bah, peut-être qu'elle, finalement, elle est responsable et toi, tu n'y es pas encore, mais inspire-toi de son parcours, de ce qu'elle a fait pour arriver là, quoi.
C'est clair. Moi, il ne m'en reste plus qu'un.
Vas-y.
Alors, mon petit truc à moi, donc, on finit par du sexo, un petit peu.
Ah ouais, moi, j'en ai encore trois.
Oh, alors, attends, je me le garde. Alors, je me le garde.
Alors, moi, c'était plutôt par rapport à l'alimentation. C'est vrai que mon rapport à l'alimentation a beaucoup changé. On avait fait un épisode tout au début de notre podcast, je crois, avec Tania, sur où est-ce qu'on en était. Et je pense que toutes les deux, on a eu pas toujours un très bon rapport. Et donc, du coup, j'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. La nourriture est là pour te donner de l'énergie, ce n'est pas un ennemi. Et ça me rappelle surtout mes périodes où je diabolisais certains aliments, genre le chocolat, c'était vraiment le diable, mon pire ennemi. Fallait surtout pas que j'en mange, etc. Et en fait, c'était pire de me mettre des aliments dans des cases comme ça, parce que limite, vu que c'était interdit, j'en avais encore plus envie. Et vu que je me privais, j'en avais encore plus envie. Et c'était des obsessions que je développais à partir de ça. Parce que justement, je glorifiais certains aliments qui n'étaient pas forcément sexy dans ma tête. Et à l'inverse, d'autres étaient diabolisés. Du coup, j'avais un rapport un peu éclaté, quoi.
Mais c'est vrai que moi aussi, c'est un truc que j'ai appris, j'ai l'impression, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais.
Genre, cette vision-là de mon corps est une machine qui a besoin de fonctionner avec différents ingrédients pour qu'il fonctionne correctement. Genre ça, c'est un truc limite, quand j'étais petite, on ne me l'a jamais dit.
Après, genre, on m'a dit, bien sûr, bon ou mauvais. Oui, il faut toujours privilégier les aliments bruts aux aliments transformés, industrialisés, bien sûr. Mmh. Mais quand je dis bon ou mauvais, c'est par exemple dire qu'en fait, c'est pas parce que tu vas manger un petit peu de chocolat de temps en temps que c'est, le chocolat, c'est mauvais. Mmh. Au contraire, le chocolat, il peut avoir des bonnes propriétés, comme le chocolat noir, ça a des propriétés antioxydantes, etc. C'est juste une question de balance. C'est sûr que si tu bouffes que du chocolat tout le temps, oui, ça va devenir mauvais. Mmh. Mais je veux dire, en soi, le chocolat n'est pas quelque chose de mauvais, tu vois.
Mmh. Mais même, je pense que c'est important de savoir se faire plaisir aussi. Donc si des fois, il y a des trucs même dégueulasses pour la santé qui te font plaisir, c'est pas grave tant que c'est fait avec parcimonie et que derrière, ça te nuit pas à ta santé de manière démentielle, tu vois. Mais après, la vie, c'est une question de balance. Moi, je sais qu'avant, j'avais un petit peu des TCA, hyperphagie, etc. Mais en fait, c'est aussi parce que des fois, il y avait des périodes où j'essayais de rien bouffer. Après, je pétais les plombs, je bouffais une tonne. Ouais. Après, je bouffais rien, etc. Alors que maintenant, j'ai l'impression que je me fais plaisir au quotidien. J'essaie un petit peu. Genre, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a un gros appétit. Donc, du coup, j'ai l'impression que je mange des trucs sains, mais en grosse quantité. Du coup, c'est pour ça que j'ai ma corpulence actuelle. Mais au moins, je sais que j'y donne des ingrédients que je sais qui font du bien à mon corps. Tu vois, je lui donne pas des trucs. Après, aujourd'hui, je vous dis ça, j'ai acheté plein de bons becs, etc. Mais c'est pas un truc que je fais au quotidien, tu vois. C'est de temps en temps, on se fait kiffer quand on fait le podcast. Mais sinon, le reste du temps, je sais que j'essaie de donner en fait de la bonne essence pour que mon corps il fonctionne correctement, quoi.
Et dans le même thème sur le sport n'a pas pour but de te faire maigrir, faisant pour te faire plaisir. Mmh. Et parce que je pense qu'il y a un moment où. Moi, je voyais vraiment le sport comme un moyen juste de perdre du poids. Et c'était, en fait, j'apprécie pas du tout. Limite, il y a une période où j'étais inscrite à la salle et j'aime pas du tout aller à la salle. Vraiment, c'est un endroit que j'aime pas. Et j'ai des potes aujourd'hui qui me disent « Viens avec moi, on va faire des cours de ceci, de cela. » Je me dis « Non, j'aime plus la salle parce que je l'ai trop bouffé. » Ou au moment où c'était une obligation, où je me forçais à y aller, même quand j'étais fatiguée, quand j'étais malade, pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'étais à la salle pour perdre mes calories et pouvoir le rentrer dans mon application. Mmh. Et du coup, ça m'a dégoûtée. Et du coup, j'étais en mode, mais quelle horreur le sport. Alors que j'ai toujours aimé ça. Et du coup, aujourd'hui, je préfère vraiment faire du sport pour me faire plaisir. Tout le monde sait que je fais du tennis. Et du coup, j'adore parce que pour moi, c'est un jeu. Je m'éclate. Souvent, je suis dehors. Donc, en plus, je sais pas, ça fait du bien d'être à l'extérieur, de respirer l'air frais, etc. Mmh. Et du coup, j'y vais avec plaisir, en fait.
Ça te fait du bien au corps, ça te détend. C'est plus une corvée, ouais. C'est un combo gagnant. Non, mais c'est clair. Moi aussi, je fais de la danse, etc. Et quand je le fais, c'est pour me faire du bien. C'est pas pour maigrir, c'est pas par obligation ou quoi que ce soit. C'est juste que je me dis, en fait, ça va me faire du bien, ça va me bouger le corps. Je sais que des fois, j'ai des problèmes de dos, ça me fait du bien au dos et tout. Donc, en fait, pareil, je trouve que c'est en grandissant qu'on se rend compte de ça. On passe par plein d'étapes. On passe par l'étape où on veut pas du tout faire de sport quand on est petit, les cours de PS, etc. Après, on est en mode sport à l'extrême pour maigrir, enfin, en tout cas les personnes qui veulent perdre du poids. Et après, derrière, on est en mode plus de sport, ça nous a dégoûté. Et en fait, je trouve le moment qui est le mieux, c'est quand justement tu trouves cette balance et tu te dis en fait, le sport, c'est une bonne chose. Et ouais, je crois qu'on a parlé énormément. Chloé vient de regarder le temps. Je crois
ça
que,
fait une heure.
Ok, bon, je termine avec le truc sexo.
Ouais, on finit vers ça.
Donc je disais, la raison qui. Alors non, ça c'est déjà fait. Ma dernière leçon, c'est avoir plusieurs partenaires ne fait pas de toi une pute ou une mauvaise personne. Genre, moi, je sais que quand j'étais petite, vraiment, je me disais, oh là là, les meufs qui envoient des nudes, c'est hyper grave. Oh là là, mince, j'ai fait ma première fois pas forcément avec un mec que j'aimais de fou. Ça fait de moi vraiment une vilaine fille. J'ai couché avec plus de 10 mecs. Ça commence à faire un gros body count. Ce truc autour des body counts, etc. Comme si ça allait changer quelque chose à ta vie future. Tu peux avoir couché avec 60 mecs et après trouver l'homme de ta vie et vouloir plus coucher qu'avec un. Comme tu peux avoir couché avec un seul mec et être très bien avec et c'est l'homme de ta vie et basta.
De toute façon, ça c'est un truc sexiste et ça vient du patriarcat. Hein. Les hommes, ils n'ont pas ça, c'est que les femmes. Ouais, mais bon, quand tu apprends à t'en libérer, à te dire je fais avant tout ce qui me fait kiffer, fine, tu vois. Mais je pense qu'on a encore ce truc, enfin, je sais pas si je l'ai encore aujourd'hui, mais de se dire ah ouais, elle, c'est une chaudasse, tu vois. Parce qu'elle couche avec différents mecs plusieurs fois par semaine. Mais en fait, non, si je dirais pas ça d'un mec. Donc, les gens font ce qu'ils veulent et basta, quoi. Mais tu vois, moi, c'était un peu peut-être dans le sens pas vraiment inverse, mais je m'étais dit, tu n'es pas obligé de coucher le premier soir ou tu n'es pas obligé de coucher avec quelqu'un si tu n'en as pas envie. Parce que je pense qu'il y a une période où j'avais l'impression que c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la dette sexuelle. C'était en mode, j'ai l'impression que c'était un peu la case obligée. Genre, bah, vu qu'on s'est pécho, qu'on est dans un lit, genre, je suis obligée de coucher avec lui. Voilà, c'est obligé. Ou parce qu'on est en couple, du coup, je suis obligée d'avoir un rapport sexuel avec la personne. Non, tu n'es jamais obligée de rien au niveau cul si tu n'as pas envie. Mais c'est parfois difficile de savoir poser ses limites.
Ah, parce qu'on a, on a été éduqués d'une certaine manière, avec une certaine pensée. Ouais. Mais au même titre que, des fois, par exemple, tu vas coucher le premier soir avec un mec. Bah, en fait, tu as couché le premier soir avec un mec parce que tu en avais envie. Genre, t'as le droit de te dire, j'avais couché par envie. Et non pas parce que j'avais une vision d'avenir avec le mec, que nanani. En fait, non, des fois, genre, moi je dis, faut pas se prendre la tête. Ça m'est déjà arrivé, moi, quand j'étais plus jeune, de coucher avec des mecs. Et du coup, là, j'étais dans le mal de fou après, parce que je me disais, je voulais que ce soit l'homme de ma vie. Au final, je suis partie en couille. Alors qu'au final, le mec éclatait au sol avec du recul, tu vois. Mais maintenant, je me dis, maintenant que je suis plus adulte et que j'ai vécu plus d'expériences, etc., en fait, je me rends compte que bah, y a des mecs, limite, c'est con, hein, mais j'ai oublié limite avec qui j'ai couché. Et des mecs, je sais même plus. Tu vois, tu me redis, il y a des gens, je me dis, ah oui, c'est vrai, putain.
Ouais. Avec lui. T'as pas la petite fameuse liste.
Ouais, bah je l'avais, mais je l'ai perdue. Oups. Ah ouais. Je pense que du coup, après, maintenant, je suis en mode trop tard, j'ai oublié. Mais tout ça pour te dire que tu vois, on pense que les gens vont avoir un gros impact. Après, je sais qu'il y a toute cette histoire des énergies, il y a des gens qui pensent qu'on se refile des énergies, etc. Moi, je suis assez d'accord sur l'année, tu vois. Ouais. Mais passer un an, limite, ça y est, pouf, l'énergie, elle est partie. J'ai complètement zappé. Donc, je dis pas qu'il faut coucher avec Pierre-Paul Jacques sans arrêt et tout. Après, si ça vous plaît, quoi bien vous fasse. Mais en tout cas, rappelez-vous que vous disposez de votre corps comme vous le voulez. Si vous avez envie que votre temple ne soit pénétré par personne, fermez les portes à clé. Si vous voulez que votre temple soit le temple le plus visité du Nicaragua, bon, en fait, c'est vous qui décidez si vous ouvrez les portes ou pas, tu vois.
Ah, de ouf.
Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de passages que ça veut dire que... Ouais. Est-ce que les temples qui ont beaucoup de passages, on dit que c'est des temples de merde? Ouais. Non, c'est des temples visités. Vous avez été visité et vous avez fait visiter, vous-même, vous avez visité des gens. Voilà.
Et pour terminer, je dirais, l'amour ne se quémande pas. Figure-toi que ça vient de me traverser l'esprit parce que, en fait, je pense qu'il y a des périodes de ma vie où j'étais trop dans l'attente qu'on m'aime, dans l'attente que tu es des mecs. Mm-hmm. Et en fait, j'étais limite là à trépigner, genre qui va me répondre. Voilà. Et en fait, non, si quelqu'un il est vraiment intéressé par toi, il va te le faire comprendre, il va être là pour toi, il va t'écrire, il va te proposer de te voir. Et c'est pas normal, en fait, de quémander à quelqu'un. En fait, si tu vois que la personne n'a pas envie de s'investir, bah laisse tomber.
Oh, bah oui, c'est clair. Ça revient un petit peu au truc aussi où on disait en date ne pas jouer un rôle.
Ouais.
En fait, si quelqu'un va t'aimer, c'est pour quitter. C'est pas pour le rôle que tu t'es donné parce que t'avais envie que la personne t'aime. Genre ça, oui, dans la vie, il faut faire des compromis. Oui, forcément, peut-être que moi, je suis pour que dans une relation, il y a toujours une petite part un petit peu de séduction, etc. Et ça, c'est pas forcément qui je suis, par exemple, avec Chloé. Chloé, je suis pas en train de la séduire, tu vois. C'est une de mes facettes. C'est une des facettes que j'aime bien garder dans mon couple, etc. Mais ça n'empêche que c'est pas un rôle que je joue, c'est juste une facette. Et du coup, n'allez pas accentuer, créer un rôle complètement, parce qu'en fait, après, la personne, elle peut même tomber amoureux de vous, oui, mais de tomber amoureux du rôle. Et après, là, c'est la merde. Moi, j'ai une copine, elle s'est mise en couple avec un gars qui était assez particulier. Et en fait, elle s'est mise... Moi, c'est vraiment, je le voyais dès le début. J'étais en mode, franchement, t'es en train de te mettre dans un rôle bizarre, tu vois. Et en fait, elle a joué la comédie pendant genre 6 mois. Au bout d'un moment, le mec, il était grave amoureux d'elle. Et après, au final, ben, elle s'est rendue compte que, en fait, elle pourrait pas tenir ce rôle toute sa vie.
Mais elle mentait sur quoi?
Ben, c'est comme si elle se donnait un genre.
Mais quel type de genre?
Après, je vais donner trop de détails, personne ne va se reconnaître.
Ok, je me dirai en privé.
Voilà, mais c'est comme si que je te disais, je sais pas, je sors avec un loubard, du coup, je vais être hyper ghetto, alors qu'en réalité, je ne le suis pas, tu vois.
Ouais.
Bah, okay. Voilà, c'était un peu un genre comme ça. Et du coup, pour moi, en fait, tu peux pas, parce que ce soit la personne qui va se rendre compte de la supercherie, ça va pas le faire, ou que ce soit toi qui en as marre de tenir un rôle qui n'est pas toi, ça va pas le faire. Donc, sois toi-même, et puis ça passe ou ça casse. Et si ça casse, tant pis pour sa gueule. Enfin voilà, punaise, l'épisode, je crois que c'est un des plus longs.
Ouais,
attendez, je regarde le temps. Oh my god, je crois qu'on a fait plus d'une heure, faut le savoir.
Donc, voilà. Et vous les cops, n'hésitez pas à nous dire par DM c'est vos quoi leçons. Vos leçons.
Ouais, c'est ça. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Punaise, je reviens pas qu'on a fait plus d'une heure de podcast. Ouais. On va quitter ça tout de suite. 1, 2, 3.
Bisous les cops.